Lizzie présente Ernetti et l'énigme de Jérusalem de Roland Portiche. Lu par Julien Châtelet. Pour Sarah, encore et toujours. Avertissement. Encore discuté, parfois moqué, souvent méconnu, l'existence du chronoviseur du père Ernetti continue d'enflammer les esprits. Elle a pourtant un fondement historique. En 1964, dans l'enceinte fermée du Saint-Siège, ce prêtre aurait mis au point une machine prodigieuse, capable de voir dans le passé. Sur l'ordre du pape, il aurait visité la période évangélique pour découvrir le vrai visage du Christ. Mais ce qu'il a vu était si déroutant que le Saint-Père ordonna de démonter la machine et de la dissimuler au plus profond des caves du Vatican. Jusqu'au jour où... Chapitre 1. La chose est peu connue car le secret fut bien gardé. Le jeudi 27 novembre de l'an 1980, une scène particulièrement insolite se déroula dans le cadre majestueux de la basilique Saint-Pierre aux liens de Rome, San Pietro in Vincoli, où se trouve la statue de Moïse par Michel-Ange. Fallait-il y voir un symbole? En pleine nuit, Sa Sainteté le pape Jean-Paul II avait convoqué 454 représentants des principales religions monothéistes de la planète, tous arrivés dans l'urgence et le plus grand secret. Vers 2 heures du matin, en dépit de la fatigue, chacun occupa le siège qu'on lui avait réservé dans la grande nef de la basilique. Ils étaient installés les uns à côté des autres, comme à la messe. Les murmures cessèrent quand le pape fit son entrée. Voûté, le visage grave, il s'avança vers le micro et regarda la salle. Mes frères, je vous ai rassemblés car nous allons affronter une crise majeure pour notre foi. Que nous soyons juifs, catholiques, protestants, musulmans ou chrétiens orthodoxes, nous sommes tous menacés, car il est en danger. Le souverain pontife laissa passer quelques secondes afin de donner plus de solennité à son propos. C'est alors que sa béatitude Dimitrios Ier, patriarche écuménique de Constantinople, posa la question que chacun avait en tête. « Mais qui est en danger, Saint-Père ?» Le pape hésita. Certains allaient crier au blasphème, mais il devait tout dire. La découverte, 2 mois plus tôt. Chapitre 2. Un petit paquet soigneusement emballé avait été déposé par coursier au département d'archéologie du musée d'Israël de Jérusalem. Dès son arrivée à l'accueil, Natacha Yadin Drori téléphona à Dana Agron, son assistante. « Ils l'ont livré ?»« Ce matin, on t'attendait pour l'ouvrir. »« Tu viens ? Je suis impatiente de voir ça. » Le musée d'Israël était construit sur une colline de Jérusalem à proximité de la Knesset, de la Cour suprême et de l'université hébraïque. C'était certainement le musée le plus prestigieux du Moyen-Orient et l'un des plus riches du monde sur le plan archéologique. Il rassemblait toutes les découvertes faites en Terre Sainte depuis que les premiers sapiens s'étaient sortis d'Afrique pour gagner le continent eurasiatique 100 000 ans plus tôt. Après sa nomination au poste de conservatrice adjointe, Natacha avait mis en place un département très ambitieux qui couvrait 6 siècles d'histoire juive, jusqu'à l'époque romaine. Mais jamais elle ne révéla ce que le chronoviseur, la machine à explorer le passé du père Ernetti, lui avait dévoilé 16 ans plus tôt de l'histoire réelle de Jésus de Nazareth. Elle avait même souhaité l'oublier. Elle retrouva Dana à l'étage des réserves. Un petit paquet attendait, posé sur une table de travail. À l'intérieur, soigneusement protégé par du coton, il y avait un talon humain. « C'est incroyable !» dit-elle. « On voit encore le clou !» Si le vestige n'avait été aussi morbide, elle l'aurait trouvé merveilleux. Il s'agissait de l'os du talon d'un crucifié du 1er siècle, encore percé d'un gros clou dont la pointe avait été tordue. C'est vraiment le premier témoignage archéologique d'une crucifixion. Natacha avait déjà vu ce talon au musée Rockefeller de Jérusalem-Est. Aujourd'hui, elle avait enfin l'occasion de l'exposer dans le cadre d'une synthèse muséologique sur le supplice de la croix. « Tu as de la documentation ? Dana montra une liasse de feuillets dactylographiés. Un cahier entier d'une cinquantaine de pages, très détaillé. On a son identité ? Oui, c'était un contemporain de Jésus. On ignore pourquoi il a été exécuté, peut-être un crime de droit commun. L'archéologue américain qui a étudié le talon pense que chaque jambe était chevillée au poteau de la croix par un clou de ce genre. Selon lui, les mains n'étaient pas clouées, mais attachées. Assez différent donc des représentations classiques. Oui, il en conclut que le condamné mourait d'asphyxie et non d'hémorragie. Elle mima la position. Ses deux bras étirés l'empêchaient de respirer normalement. Il était réduit à une respiration superficielle qui devenait mortelle au bout d'un ou deux jours. Tout était étudié pour le faire souffrir beaucoup et longtemps. « Horrible !» laissa échapper l'assistante. « Romain, ma chère !» répondit Natacha avec un geste fataliste. « Dana, il faudrait accompagner le vestige d'un croquis pour que le public comprenne mieux. Je vais m'en occuper. On l'expose au premier étage ?» Comme prévu, avec plusieurs panneaux d'explication et des photos de l'ossuaire où les archéologues l'ont trouvé. Rédige un premier jet, je le corrigerai. Entendu. Il y a aussi ce type...
Quel type ?
Dès qu'elle montait une exposition, Natacha était assaillie par des importuns qui lui faisaient perdre son temps. Dana lui tendit une feuille sur laquelle était noté un numéro de téléphone. Il t'a appelé au moins 6 fois ce matin. Natacha eut un geste d'agacement. « Il t'a dit ce qu'il veut ?»«
Non, il ne veut parler qu'à toi. »
Elle prit le papier en soupirant. « Donne, je vais m'en débarrasser. » Une fois dans son bureau, Natacha ferma la porte et composa le numéro. « Allô ? Natacha Yadine Drori à l'appareil. »«
Enfin, vous n'êtes pas facile à joindre. J'ai ameuté tout le musée. »
La voix était agréable, celle d'un enjôleur qui ne manquait pas d'aplomb.
Je l'ai entendu dire, mais je ne passe pas mon temps à mon bureau. Que voulez-vous ?
Vous rencontrer.
Je suis très occupée en ce moment.
Ce que j'ai à vous dire, madame, vaut bien un petit dérangement.
Parlons-en au téléphone, c'est plus simple.
Impossible, madame. Vous comprendrez vite pourquoi.
Le secret. La vieille musique de tous les mythomanes. Il insista.
Pourriez-vous me consacrer 2 heures d'entretien ?
2 heures ? Mais c'est énorme ! Si elle refusait, il rappellerait pendant des semaines. Mieux valait en finir. Elle consulta son agenda.
« Je n'aurai qu'une heure vendredi à 10 heures du matin. »
Il était un peu déçu, mais accepta.
« Je vous préviens, » ajouta Natacha, « ce sera 5 minutes si ce que vous avez à me proposer ne m'intéresse pas. »«
Paris tenu, »
répondit-il du tac au tac.
« On verra. Donnez-moi au moins votre nom. »
Il hésita.
« Disons que je suis le petit-neveu d'Indiana Jones. »
Natacha leva les yeux au ciel et raccrocha. « Ce sera très certainement 5 minutes, » pensa-t-elle. Chapitre 3. Peu après le début de son pontificat, en octobre 1978, le pape Jean-Paul II avait confirmé le père Pellegrino Ernetti dans ses fonctions d'exorciste officiel du diocèse de Venise. Un poste honorifique surtout. L'essentiel du travail était assuré par les prêtres locaux. Mais on avait suggéré au Saint-Père que l'Église devait beaucoup à ce prêtre aujourd'hui quadragénaire, par ailleurs musicologue distingué et diplômé en physique moderne. La plupart des cas sur lesquels le père Ernetti travaillait relevaient de la simple psychiatrie, certainement pas d'une possession. Jamais pourtant ces patients ne seraient allés se confier à un médecin. Ils ne croyaient qu'aux vertus curatives de la foi. Il faut dire que son statut de prêtre exorciste, en autorisant toutes les confidences, lui permettait de résoudre simplement les problèmes psychologiques les plus délicats. Sur la route qui le ramenait à Venise, Pellegrino écouta la radio. Comme il lisait peu la presse quotidienne, ses trajets lui permettaient de conserver un contact minimum avec l'actualité. Elle n'était guère rassurante. L'URSS s'impliquait davantage en Afghanistan. Un attentat à la gare de Bologne, des avions détournés au Moyen-Orient. Le nouveau pape, lui, sillonnait la planète en défendant les valeurs de l'Église. « Quand on sait ce dont les hommes sont capables, » songea le père Ernetti, « on peut craindre pour le Saint-Père aussi. »